Nous sommes fiers de vous et l'initiative, la vision et le travail que vous faites. Et nous sommes fiers de vous aussi, les membres de l'Église Nouvelle Vie Charlevoix. Vous êtes des membres précieux de la grande famille Église Nouvelle Vie. Presque 6000 personnes à tous les dimanches sur 8 sites, comme vous avez remarqué, avec des centaines de bénévoles. Il y a quelque chose qui prend place ici au Québec, ces jours ici, depuis le début de l'année. Moi, par mon ministère de responsable des multisites, aussi de ETF, ACF, moi, je voyage partout au Québec, les quatre coins. Je suis à quelque part à tous les dimanches et je témoigne quelque chose de spécial, il y a quelque chose de surnaturel. Nous vivons un miracle aujourd'hui, je crois. Il y a comme un momentum spirituel et nous avons la joie de non seulement témoigner qu'est-ce que Dieu fait, mais aussi de participer. J'ai entendu quelqu'un sur une émission de radio chrétienne dernièrement dire « L'Église au Québec est morte. » Cette personne, faut sortir plus souvent. Parce que je suppose qu'il va à l'Église. Mais l'Église au Québec n'est pas morte. Nous témoignons ça ici à Charlevoix. Mais partout, il y a quelque chose de divin qui prend place. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas sans défi, sans dilemme, sans déception, parfois, et de pression et de problèmes. On dit pas que c'est facile, mais on a vraiment la joie de voir quelque chose de spécial que le Seigneur fait aujourd'hui comme un momentum spirituel. C'est tellement inspirant, tellement excitant. Et je dis merci à Seigneur que l'Église, non seulement que l'Église survit, mais l'Église fleurit malgré les défis. Il peut y avoir des défis, des déceptions, des dilemmes, mais l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'est jamais détruite. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Quelqu'un a déjà dit, tous les fêtes juives de l'Ancien Testament peuvent être résumées par « Quelqu'un a essayé de nous détruire, il n'a pas réussi, mangeons. » À peu près ça, hein? Mangeons, célébrons la victoire, l'Église qui non seulement survit dans des temps difficiles, mais qui fleurit. Et ça, c'est ce que je crois que nous vivons, hein, post-pandémie, si je peux dire, là, pendant la pandémie, la crise qui a tenté d'écraser l'Église, mais on est sorti, puis oui, il y a des défis devant nous, mais c'est merveilleux de voir que l'Église n'est pas écrasée, l'Église ne survit pas seulement, mais l'Église fleurit. Mangeons, célébrons, acclamons le Seigneur que nous participons dans quelque chose d'absolument miraculeux. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, tout le monde ensemble, d'en arrière jusqu'ici, en avant? Et est-ce qu'on peut donner une acclamation, pousser un cri de joie, une ovation pour tout ce qui prend place? L'Église de Jésus n'est pas morte, elle est vivante, vibrante, dynamique, croissante. Elle avance partout au Québec en 2023. Malgré les problèmes, malgré les persécutions, malgré l'opposition, l'Église du Seigneur est vivante. Et nous témoignons ça et nous participons dans ce que le Seigneur fait. Wow! C'est fantastique, c'est merveilleux. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais aujourd'hui. Je vais vous asseoir, merci. Que non seulement nous ne sommes pas appelés en tant qu'Église de survivre, mais de fleurir. Alors nous fleurissons. Et nous allons continuer à fleurir et avancer et croire Dieu pour encore plus, avec une soif insatiable pour encore plus. Plus de sa présence, comme on a chanté ce matin, mais aussi plus de percées, plus de victoires, plus d'âmes sauvées, plus de résultats. Il faut toujours garder une soif pour plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Seigneur, on veut encore plus. Merci pour tout ce que tu fais là, mais on veut encore plus, qui est tout à fait acceptable. Je dirais même normal, car né pour un petit pain ne devrait pas faire partie de notre vocabulaire. Car nous ne sommes ni des fatalistes, ni des défaitistes, ni des pessimistes résignés à notre sort, mais nous sommes des croyants en Jésus-Christ. On est des chrétiens, on est des personnes de foi, des personnes confiantes. Il n'y a rien ne dérange plus l'ennemi qu'un peuple qui refuse l'apitoiement, résiste le découragement et sont résolus d'aller de l'avant avec foi, espérance et anticipation et confiance, non pas en nous, mais en Dieu. Car nous croyons que nous servons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est capable. Est-ce que je peux entendre amen à cela? Pas que nous sommes grands et capables, on sert un Dieu qui est grand et capable. Capable de faire de grandes choses, avec des personnes comme nous. dans un endroit comme ici. Ne pensez jamais que nous sommes trop petits, trop insignifiants, trop indignes pour que le Seigneur se serve de nous. Vous, moi, chacun de nous. Et que Dieu fasse de grandes choses avec nous et pour nous. En tant que personne ou même en tant qu'Église, c'est facile parfois de demander qui sommes-nous. Hein? Qui sommes-nous pour vivre des grandes choses avec Dieu? Hein? Qui suis-je, moi, pour vivre des grandes choses, pour participer dans ce que le Seigneur fait? Qui suis-je, moi? Qui sommes-nous? Ce groupe de personnes réunies à Charlevoix pour croire que Dieu va faire des grandes choses avec nous et multiplier la bénédiction et l'impact de ce que nous faisons et semons ici au Québec en 2023. Qui suis-je et qui sommes-nous? Mais les histoires bibliques nous enseignent que Dieu est entièrement capable de bénir et servir des gens qui semblent être trop petits pour être grands. Remarquez juste dans l'appel de David ici sur l'écran. Ça dit, « Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis. » Pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël, j'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Où est-ce que Dieu a trouvé David? Derrière les brebis. Combien sont d'accord que ça, c'est pas trop prestigieux ou glorieux comme endroit, ça? Hein? Combien sont d'accord que ce n'est pas facile d'avoir une grande vision quand la seule chose que nous voyons toute la journée est le derrière des brebis? Right? Toute la journée, ils ne voyaient rien que le derrière des brebis. C'est difficile d'avoir une grande vision, hein? Mais c'est là que Dieu est allé chercher. Dieu est allé lui prendre là. Alors, nous sommes jamais trop petits, trop perdus, trop insignifiants pour que Dieu ne fasse pas des grandes choses avec nous. Et moi, je vous invite ce matin à une mentalité winner, une mentalité gagnant, à renouveler votre soif pour plus, encore plus de victoires, de résultats d'âme et de bénédictions. Combien ils sont avec moi? Levez vos deux mains et vous dites, ouais, ouais, c'est ça. Winner, on veut gagner, on veut encore plus. Un peu comme Néhémie dans sa prière que j'aime tellement ici. Quand Néhémie, dans la réforme de Jérusalem, le rebâtiment, la reconstruction de Jérusalem, il a pris cette prière qui est sur l'écran ici. Il dit, « Oh Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. » Wow, j'aime cette prière-là. « Seigneur, je cherche du succès. » Néhémie n'était pas gêné de demander pour le succès. Seigneur, on travaille pour un fruit. On travaille pour un résultat. On ne fait pas ça pour rien. Donne du succès à tes serviteurs. Moi, je vous invite à prier pour des résultats, d'attendre des résultats. Et dire, Seigneur, on veut des résultats. La prière avec anticipation. Il y a bien des religions dans le monde qui sont fatalistes par nature. Hein, ils acceptent d'une manière passive leur sort, leur situation. Et la plupart des religions mondiales, ils disent, ben, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté des dieux. Si Dieu veut, ça va changer. Ça doit être sa volonté. On est comme qu'on est parce que c'est notre sort, c'est notre appel. Puis ils acceptent d'une manière passive et fataliste. Mais la foi chrétienne n'est pas une croyance fataliste. Nous ne sommes pas des fatalistes, nous ne sommes pas des pessimistes. Nous croyons que nous pouvons changer des choses. Nous croyons que Dieu peut changer, transformer, libérer, guérir, délivrer, sauver, révolutionner. On n'est pas des fatalistes. On travaille et on prie, comme Néhémie, pour du succès. Nous croyons dans un Dieu qui peut changer notre avenir et l'avenir de notre ville. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? La foi chrétienne n'est pas fataliste, qui accepte d'une manière passive notre sort, non. Et justement, je vous appelle à prier et à croire et à penser comme Néhémie. Prie pour des résultats, croyez juste pour des résultats. Encore plus de grandes choses, de multiplication, de percées. Et une prière comme Néhémie, c'est ce qu'on appelle l'intercession. Puis l'intercession est le contraire du fatalisme. C'est l'anti-fatalisme. C'est de saisir les promesses de Dieu par la prière afin de transformer notre réalité, notre destinée et notre avenir. Moi, j'aime cette citation de Walter Wink, ici, un écrivain par rapport à l'intercession. C'est un peu long, mais portez attention à ce qu'il dit, parce que c'est puissant et c'est tellement vrai. L'intercession est un défi spirituel concernant les promesses de Dieu. L'intercession visualise une possibilité à venir qui, au moment présent, semble être complètement de l'ordre de l'impossible. Elle imprègne l'air du temps au point d'assiéger l'atmosphère du moment. C'est clair, l'histoire appartient aux intercesseurs qui croient en l'avenir. L'avenir appartient à quiconque peut envisager une nouvelle possibilité souhaitée selon les multiples facettes que la foi considère alors comme étant inévitable. Les églises qui se lamentent continuellement sur leur incapacité à porter des changements sont en fait dans la position enviable où elles peuvent avoir recours à l'arme la plus puissante qui soit. Cependant, cette arme relève d'un pouvoir spirituel que l'on discerne spirituellement, qu'on l'exerce spirituellement. Ceci requiert des intercesseurs qui ont foi en l'avenir. La Bible nous appelle à nous approcher de l'Éternel des armées dont les voies sont insondables. Il œuvre pour nous et avec nous. Il agit selon les prières de ceux qui se soucient suffisamment pour façonner un avenir plus humain. La prière biblique est audacieuse, insistante, impudique et impolie. Nous le voyons dans la parabole de la veuve insistante et dans celle de l'ami qui vient frapper à la porte à minuit. L'histoire appartient aux intercesseurs qui croient en l'avenir. Et ça, ça exige non seulement un amen, mais un grand oui. Combien peut dire oui à ce qu'il dit ici? L'avenir appartient aux intercesseurs. L'intercesseur qui croit à l'avenir, un meilleur avenir par la prière. La prière pour le succès, pour une percée, pour des résultats. C'est ce qu'on appelle la prière antifataliste. Seigneur, on veut encore plus. Plus. Nous croyons, Seigneur, on veut changer la réalité. La réalité, l'avenir des personnes que nous aimons. L'histoire appartient aux intercesseurs qui croient en l'avenir. J'aime cette citation ici d'Abraham Lincoln qui a dit, il est sur l'écran, « The best way to predict the future is to create it. » Ça, c'est en anglais. « La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. » Et moi, je crois que par notre implication, par le travail, par la fidélité et par les prières d'intercession, nous pouvons créer un nouvel avenir pour cette région. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Seigneur, donne du succès, encore plus de succès. Merci, Seigneur, pour tout ce qui prend place. La Malbaie, Baie-Saint-Paul, merci pour l'histoire de l'Église. Mais Seigneur, on prie devant une nouvelle saison pour encore plus. Comment lever vos deux mains si vous êtes avec moi et dire, oui, Seigneur, du succès, du fruit, encore plus. On s'engage. Moi, je vous invite à vous engager à cette prière d'anticipation, une prière qui attend des nouvelles, une percée pour votre famille, vos bien-aimés, votre quartier, vos voisins et votre ville. Seigneur, nous cherchons du succès. Alors, prions comme Néhémie et travaillons en équipe pour entrer dans la prochaine saison de destinée, que moi, je crois qu'une saison de récolte et de percée. Ensemble et en équipe, comme qu'on a entendu ici ce matin. Ça, c'est les mots clés. Si nous allons rentrer dans la prochaine dimension de multiplication de bénédictions, ça ne sera pas seulement le travail de 2, 3, 4 personnes ou l'équipe pastorale, comme qu'on a entendu ce matin, ça va être ensemble et en équipe. Ce que j'appelle la valeur inestimable de l'équipe. Et quand je parle de l'équipe, je parle de vous. Je parle de vous. Il y a une chose que j'ai appris en 39 ans de ministère pastoral et que le travail de l'Église est un travail de l'équipe. Alors, s'il vous plaît, ne sous-estimez jamais l'importance de qui vous êtes, car vous faites partie de l'équipe. Nous avons 2, 3 termes pour décrire les gens qui viennent à l'Église un dimanche matin, semaine après semaine. On les appelle les fidèles, la congrégation, le peuple, l'Église, les membres. Mais selon moi, le meilleur est l'équipe. Et chaque Église et chaque pasteur a besoin d'une équipe, une équipe en santé. Car une église, la santé de l'église dépend sur la santé de l'équipe. Et on n'aura pas du tout d'église du tout si on n'aura pas de responsables, des bénévoles, des serviteurs, des leaders, des personnes qui s'impliquent et qui donnent comme vous. Et ne sous-estimez jamais l'importance de l'équipe. Vous pouvez sauver la vie d'un pasteur littéralement, sauver la vie d'un pasteur. Comme dans cette histoire avec Moïse. Hein, Moïse qui était le pasteur de la congrégation dans le désert. Et là, il y avait une journée difficile. Il était découragé. Et là, dans ce moment de découragement, voici sa prière qui offre à Dieu. Moïse fut attristé. Puis il dit à l'Éternel, « Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. » Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur, Tue-moi, je te prie. Combien sont heureux que Dieu ne répond pas toujours oui à toutes nos prières? Right? Non, mais c'est littéralement sa prière. Enlève ma vie, je ne peux plus. Mais Dieu n'a pas répondu à sa prière de cette manière-là. Dieu a répondu comment? L'Éternel dit à Moïse, j'enlève pas ta vie, mais assemble auprès de moi 70 personnes, emmène-les à la tente d'assignation et qu'ils aient présentes avec toi. L'Éternel descendit dans la nuit, il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Au lieu d'enlever sa vie, il lui a donné une équipe. Il a dit, t'as raison Moïse, c'est trop pour une personne, deux personnes, trois personnes, je te donne une équipe. Et cette équipe a sauvé sa vie. Et Moïse a été tellement reconnaissant pour son équipe et tellement reconnaissant pour ce que Dieu a fait qu'il a dit ceci un petit peu plus tard en réponse à Josué qui croyait que Moïse était le seul qualifié pour porter le fardeau et le ministère quand il a dit « Moïse, il y a d'autres personnes qui s'impliquent. C'est ton travail ça, Moïse. Il faut les arrêter. Il y a d'autres personnes qui vont servir Dieu et communiquer pour Dieu et qui sont oints et choisis par Dieu pour faire le travail. » Puis Moïse répond « Es-tu jaloux pour moi? » Il dit, « Puisque tout le peuple de l'Éternel est composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Il dit, « Je suis tellement béni par cette équipe-là. Moi, je prie pour le jour que tout le peuple de Dieu va avoir l'esprit de Dieu sur eux et ils vont faire partie de l'équipe. » Et savez-vous quoi? La réponse, la prière de Moïse a été répondue 1500 ans plus tard en Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit a descendu sur l'Église le jour de la Pentecôte. Afin de créer une communauté de personnes prêtes et préparées par Dieu pour faire le ministère ensemble comme qu'il fait aujourd'hui. Vous êtes la réponse à la prière de Moïse parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit, l'onction, l'appel est sur tous et chacun de nous afin qu'ensemble, nous avançons la cause de Christ et le royaume de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Come on, une bonne main d'applaudissement parce que nous sommes la réponse à la prière de Moïse. Le jour est arrivé, c'est nous. Dieu met son esprit en nous, sur nous, pour faire partie de l'équipe. Car personne ne doit porter le fardeau, le travail tout seul. Alors, quelles sont les qualités nécessaires pour être un membre de l'équipe bénéfique et utile? Rapidement. On dit, oui, on est appelé pour être équipe. Je veux faire partie de l'équipe, la valeur inestimable de l'équipe. Quelles sont les qualités? Qu'est-ce que j'ai appris, moi, en 39 ans de ministère, des qualités d'un membre de l'équipe valable et aussi utile et bénéfique? D'abord, la prière, comme j'ai mentionné. Il faut premièrement être des hommes et des femmes de prière. S'il vous plaît, ne laissez pas la prière à quelques personnes dans l'Église ici. Nous sommes tous appelés à ajouter nos voix dans la prière et prier avec et pour l'équipe pastorale. Est-ce que je peux entendre la semaine de cela? So, moi, je vous invite d'abord à la prière avec anticipation. Pas la prière froide, indifférente, blasée, nonchalante, routinière, plate et ennuyante. Moi, la prière avec anticipation. On veut être un peuple qui prie, comme mentionné. Parce que la prière nous prépare spirituellement pour faire de nous une équipe spirituelle. Les gens sur qui l'Esprit de Dieu repose, en qui l'Esprit de Dieu agit, par qui l'Esprit de Dieu communique et travaille, comme avec l'équipe de Moïse. D'abord, la prière. Deuxième chose, pour être un membre de l'équipe, ça prend la présence, la présence. La présence assidue. Ça prend aussi la parole encourageante. Ça prend la participation tangible. La prière, présence, parole, participation. S'il faut être des hommes et des femmes de prière, mais aussi de présence. Ça veut dire qu'on est présent d'une manière assidue et constante. C'est d'être des personnes qui sont là, présents, disponibles. Disponibles. La spiritualité est importante, mais aussi la disponibilité. Des gens qui disent, « Me voici, envoie-moi. » Avez-vous remarqué que dans ma liste de qualités, je n'ai pas mentionné la perfection? Hein? On ne cherche pas la perfection. Il n'y a personne qui est parfait. Dieu ne cherche jamais la perfection, mais le progrès, surtout la disponibilité. Les histoires bibliques nous apprennent que Dieu ne choisit pas toujours les meilleurs pour être son leader, pour être à son service. Il ne cherche pas les élites, il ne cherche pas les parfaits, parce que les parfaits n'existent pas. L'imperfection chez l'être humain existe depuis à peu près toujours. Puis qu'est-ce que les gens pensent parfois qu'ils sont disqualifiés parce qu'ils sont pas parfaits? Oh, moi, je suis pas à la hauteur. Moi, j'ai des défauts dans ma vie. Je suis loin d'être parfait. Et moi, je peux pas faire membre de l'équipe. Dieu peut pas servir de moi parce que je suis tellement conscient de mes faiblesses, de mes failles, de mes défauts. Mais les histoires bibliques nous enseignent que tout le monde est imparfait. Même ceux qui travaillaient pour Dieu, même ceux avec qui Dieu a fait des grandes choses. C'est pour ça, la perfection ne fait pas partie des qualités. L'imperfection existe depuis toujours, commençant par Adam. Adam, on paie encore pour sa gaffe 6000 ans plus tard. Comme vous savez, que ce soit les petites irritations que nous connaissons ou les situations tragiques que nous vivons, tout cela est la faute de l'échec d'Adam. À chaque fois que vous regardez dans le miroir et dites « Ugh », c'est la faute d'Adam. Chaque fois que vous regardez dans le miroir et vous dites « Wow », ça aussi c'est la faute d'Adam, c'est parce que vous perdez la vue. Moïse, qui tue un homme avec ses deux mains, vive une séparation de son épouse après avoir tourné en rond dans le désert pendant 40 ans, manque la terre promise à la dernière minute à cause d'une crise de colère, Moïse. Noé a appelé un prédicateur de justice renommé pour avoir construit l'arche et sauvé sa famille du déluge. Il termine sa vie couché, tout nu, exposé sur son lit, dans un état d'ivresse. L'erreur d'avoir implanté une vigne et profité de son fruit un peu trop. Il y a Lot, appelé un homme juste, mais aussi qui fait un choix égoïste, demeurer avec sa famille dans une ville corrompue, lui aussi vivre la honte vers la fin de ses jours, comme ses deux fils commettent l'inceste avec lui pendant qu'il est dans un état d'ivresse. Mais c'est les histoires bibliques. Samson, après plusieurs exploits incroyables et spectaculaires, termine sa vie aveugle, enchaîné et captif dans une prison, passant ses journées à tourner un meule dû à sa négligence, son compromis, sa présomption, son erreur de jugement et d'avoir été séduit et endormi par une femme 3 fois. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, mais connaît un échec après l'autre, calcule l'adultère, l'extrême injustice, l'abus de pouvoir et le meurtre. Salomon, qui a épousé 700 femmes, dont plusieurs des pays étrangers qui ont réussi de détourner de Dieu et corrompre son cœur. Salomon. À l'école biblique, parfois, les étudiants me demandent, « Pasteur Mark, est-ce que Salomon sera au ciel ou en enfer? » Moi, je réponds toujours, « Il va être au ciel. Il y avait 700 femmes, il a déjà vécu son enfer. » Ça, c'est la théologie profonde de l'ETF. Just kidding, ladies. Abraham, le père de la foi, coupable de mensonge et pour donner son épouse à un roi 2 fois. Jonas, le prophète, qui pense qu'il peut fuir le Dieu de l'univers sur un bateau. Le roi Saül, qui permet la jalousie intense de le rendre fou et violent. Puis on peut ajouter ça à Pierre, Marc, Judas. Est-ce que vous êtes encouragés? Est-ce que vous voulez que je continue? Pourquoi Pasteur Mark, un dimanche matin, racontait ces histoires inglorieuses et anti-héroïques? Pour que nous comprenions que nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes tous imparfaits. Vous, moi, Julien, Élise, même Pasteur André. Nous sommes tous imparfaits. Ça, je dis, l'imperfection ne nous disqualifie pas. Parce que Dieu n'est pas à la recherche des parfaits, ni les plus grands, ni les plus beaux, ni les plus intelligents, ni les plus talentueux, ni les plus doués. Les histoires bibliques nous enseignent ça. Qui veut dire quoi? Il se sert toujours des gens les plus stupides, laids, niaiseux et petits? Non. Il se sert des gens les plus disponibles. Ceux qui sont prêts à dire, ceux qui disent tout simplement, « Me voici, envoie-moi, sers-toi de moi. » Ceux qui sont prêts à dire, « Je suis peut-être pas le meilleur, mais pourquoi pas moi? » Levez vos deux mains pour dire, « Seigneur, pourquoi pas moi? Seigneur, me voici, envoie-moi, malgré mes défauts, mes imperfections, mes problèmes, sers-toi de moi. Je suis pas parfait, mais je suis disponible, je suis là. » Je cherche les gens qui sont présents, qui sont disponibles. En 1980, mon père, il y en a plusieurs qui connaissent mon père, le pasteur Samuel Lecomte, il avait tellement confiance en pasteur Claude Hood et moi, puis on n'était pas pasteur dans le temps, on était des adolescents qui quittaient pour l'école biblique. Pasteur Claude Hood, le pasteur principal de l'église Nouvelle Vie, on est parti, il est converti dans l'église de mon père, on est devenus des amis, puis on est quittés en 1980 aux États-Unis à l'école biblique ensemble. Mais juste avant d'embarquer dans la voiture pour quitter pour l'école biblique, mon père nous a laissés avec ses paroles. Moi, j'avais 17 ans, Pasteur Claude avait 19 ans. Si jamais vous vous faites expulser de l'école, continue vers le sud, ne reviens plus ici. Vraie histoire. C'est ce qu'on appelle une vote de confiance. Merci, Dad. Yes, on ressent vraiment la confiance en toi pour notre... Et plus qu'une fois à l'école biblique, Pasteur Claude et moi sortaient la carte géographique et on se demandait « Où allons-nous? » La Floride? On ne peut pas retourner en arrière. Je dis ça parce que nous avons été loin, loin, loin d'être des candidats idéaux pour le ministère, mais nous avons été disponibles. On était là, on était désireux et nous sommes encore là 40 ans plus tard. On est là, on est disponible, on est désireux et malgré nos défauts, nos imperfections, le Seigneur se sert encore de nous parce qu'on est là. Et qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il fait avec vous et peut faire pour vous. On n'est pas parfait, mais Seigneur, on est disponible et on est désireux. Combien de personnes disponibles et désireux avons-nous ici ce matin? Levez vos deux mains et dites, oui, Seigneur, je suis disponible et désireux. Je veux participer. Sers-toi de moi. Fais quelque chose avec moi. Ce n'est pas la perfection qu'on cherche. C'est d'être disponible. Comme dit le cinéaste renommé Woody Allen, 90% du succès, c'est juste d'être présent. Juste d'être présent. Et comme je dis souvent, si ce n'est pas nous, vous et moi, qui d'autre? Qui d'autre? Quelqu'un, il faut le faire. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Alors, nous voici, Seigneur, disponibles. Remplis-nous de ton esprit. Donne-nous les qualités nécessaires pour être des membres de l'équipe utile. Nous nous engageons, engagez-vous avec moi, nous nous engageons devant cette nouvelle saison à être des personnes de prière, à être des personnes qui sont présentes, mais aussi à être des personnes qui communiquent des paroles de vie. Des gens qui inspirent et encouragent avec leur physionomie et avec leurs paroles, avec leur voix, mais aussi avec leur visage. Il est tellement facile sous les pressions de la vie de dégager la frustration, la colère, la déception, le découragement, l'amertume, le négativisme ou l'impatience. Sans rendre compte parfois que les gens autour de nous payent le prix pour nos défis personnels, financiers, sociaux, professionnels, familiaux. Et je comprends que la vie n'est pas toujours facile, je comprends ça. Mais parfois, on ne réalise pas comment que ça affecte notre attitude, nos voix, ce qu'on dégage, nos paroles. Parce que je comprends que la vie n'est pas facile, la vie professionnelle, la vie sociale, la vie familiale. Et je peux comprendre ça. Prends juste le mariage comme exemple. On met deux pécheurs ensemble, chacun avec ses imperfections, ses faiblesses, ses habitudes, son bagage émotionnel. Puis on les demande de vivre ensemble sous le même toit et dans le même lit pour le reste de leur vie en harmonie et en paix. C'est quand même un miracle. Dans l'ancien temps, ce n'était pas trop pire. Les gens mouraient à 40 ans. Mais là, on vit jusqu'à 80 ans, plus de temps à tomber en amour, tomber ses nerfs, puis après ça, on ajoute des enfants, d'autres petits pécheurs. On demande à tous ces pécheurs de vivre ensemble dans la joie permanente, malgré nos différences, nos imperfections et nos défis, dont la raison pour mettre une garde sur nos lèvres et attention à nos paroles et d'arrêter de remarquer les bénédictions chez les autres avec l'envie et commence à rendre grâce pour les bénédictions de Dieu chez nous. Qu'on soit un peuple qui sont plus souvent reconnaissants que misérables. La vie n'est pas parfaite, mais merci Seigneur pour qu'est-ce que nous avons entre nos mains, qu'on peut dire plus souvent, merci Seigneur, merci pour ma famille, merci pour mes amis, merci pour mon épouse, merci pour mon époux, merci pour mon église, merci pour mon pasteur, merci pour mes pasteurs, merci Seigneur pour ce que j'ai. Commande une bonne main d'applaudissement pour ce que nous avons. Des gens qui sont reconnaissants. Reconnaissants. Et pendant que j'ai le micro, laissez-moi vous dire quelque chose. De plus en plus. Est-ce qu'il est possible d'encourager vos pasteurs de temps en temps? Soyez, quand on est membre de l'équipe, il faut qu'on soit des membres qui encouragent les pasteurs, qui disent merci pour le travail des pasteurs, qui vont complimenter les pasteurs de temps en temps, qui vont inspirer et encourager. C'est tellement facile d'être critique d'un leadership et critiquer une église ou les pasteurs d'une église, mais est-ce qu'on peut complimenter plus que critiquer? d'être des gens qui disent merci, reconnaissant. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour m'impliquer? Merci pour ton service. Merci pour la musique, la louange, l'adoration. Merci pour le travail. Merci pour les prédications. Quand on est communicateur public, comme moi je suis, on est plus fragile que vous pensez. On est plus fragile que vous pensez. Un compliment de temps en temps nous fait du bien. Une parole d'encouragement. C'est pas facile de parler en public. On est plus fragile que vous pensez. Il y a des gens qui vont dire, « Oh, Pasteur Mark, si je te donne un compliment, ça va t'enfler la tête. » Moi, je dis, « Inquiète-toi pas, il y a quelqu'un en arrière de toi qui va la désenfler assez rapidement. » C'est un travail d'équipe. Il y en a qui complimentent, il y en a qui critiquent. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter d'enfler la tête de qui que ce soit avec un compliment, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va le désenfler, et ça nous fait du bien. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune prédicateur, je prêchais pour les premières fois les dimanches matins, puis je cherchais justement un peu d'encouragement, de compliments, puis parfois, après les réunions dimanche matin, j'étais dans la voiture avec mon épouse, puis là, tu sais, je cherchais quelque chose, tu sais, un petit compliment, là, quelque chose d'encouragement, je disais quelque chose comme, je suis pas sûr que ça a bien été un matin. Puis là, elle répondait, « Ouais, je trouve que tu as eu la misère. » La misère? Essaie de prêcher, toi, et tu vas voir que c'est pas facile. Ça terminait toujours en chicane. J'ai arrêté de le faire. Mais je le faisais parce que ça nous fait du bien. On est plus fragile que vous pensez. D'être un membre de l'équipe valable, utile, bénéfique, c'est d'être un membre qui encourage, qui édifie, qui inspire, qui dit merci. Quelqu'un qui dégage la joie de l'Éternel et laisse pas les pressions, les défis et les problèmes de la vie nous rendre amers, aigris. Dis merci Seigneur, j'ai toujours une raison pour dire merci, 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 merci. Merci Seigneur pour l'église Charlevoix, la Malbaie, Baie-Saint-Paul, tout ce qui prend place. Merci d'avance pour tout ce qui va prendre place. Merci Seigneur pour la communauté, la famille. Merci Seigneur pour la joie qu'on ressent quand on rentre dans la salle ici ce matin, le rire, la conversation, la discussion, la vie communautaire. Merci qu'on ne vit pas notre vie tout seul. Merci Seigneur. Ça fait partie avec notre voix puis nos visages, physionomie et paroles. Merci Seigneur. Encore une bonne main d'applaudissement pour tout ce que le Seigneur fait ici. Puis il faut qu'on s'engage. On veut s'engager à être des personnes de prière, des personnes de présence, des personnes aussi d'une parole encourageante, mais aussi en finale, des personnes d'une participation tangible. Soyons des personnes fidèles et fiables. À qui votre Église peut confier des tâches et des responsabilités. Tout le monde doit contribuer dans l'avancement de cette Église, tout le monde sans exception. Nous avons tous l'énergie, du temps, l'argent, connaissance, expertise, quelque chose que nous pouvons faire en avant de la scène, en arrière de la scène, c'est d'être fidèle et fiable. Proverbe 26, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Qui le trouvera? J'espère que la réponse à cette question est, nous l'avons trouvée ici à Charlevoix en 2023. Voici les hommes et les femmes fidèles, fidèles. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Proverbe 26? C'est une autre façon de dire, tout le monde a des bonnes intentions, mais qui est prêt à s'impliquer, donner et diriger? Car rien n'est accompli par des bonnes intentions seulement. Et ce matin, je vous appelle à être des serviteurs leaders. Et ne sous-estimez jamais l'importance de ces personnes dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, il y a 2000 ans, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez, priez, dont le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous remarquez, il n'a pas dit, prie pour le réveil, prie pour le feu, prie pour la puissance, prie pour l'onction, parce que ce n'est pas un problème de puissance que nous avons, mais un problème de personnel, un problème de bénévole, un problème d'ouvriers, de faiseurs, de doers. Doers, les gens qui vont s'impliquer. Il dit, prie. Puis si la moisson était grande il y a 2000 ans, elle est encore plus grande aujourd'hui. On a besoin encore plus de doers, des gens qui contribuent, qui sont là, des ouvriers. Un jour, nous voulons entendre les paroles de Jésus. Bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Puis vous remarquez, il n'a pas dit bien cru, bien pensé, bien ressenti, bien, il a dit bien fait. Sauf pour que l'Église Nouvelle Vie Charlevoix accomplisse la mission et la vision que le Seigneur vous a confiée. d'être une église de multiplication, de croissance, de bénédiction, il ne faut pas que nous soyons des spectateurs. Personne n'est appelé à être un spectateur dans qu'est-ce que le Seigneur fait ici, dans cette région, qui des spectateurs qui regardent, observent, offrent des critiques, des commentaires. C'est pas ça qu'on a besoin des spectateurs. Ça nous dit dans la plaque dans le musée de l'Holocauste en Washington, quand tu rentres dans le musée de l'Holocauste, ça dit tu ne seras pas victime, tu ne seras pas un criminel, mais avant tout, tu ne seras pas un spectateur. On n'a pas besoin de spectateurs dans l'Église, mais on n'a pas besoin non plus des cheerleaders. Des cheerleaders. Hein? On a les deux dans l'Église, des gens qui sont juste des spectateurs. Ils viennent, ils observent, ils écoutent, puis après ça, ils quittent, puis ils reviennent, ils observent, ils écoutent, des spectateurs. Mais on n'a pas besoin de cheerleaders non plus. Ça, c'est des personnes qui disent « Oui, vous êtes capable, bravo, applaudis, dis amen. Yes, on est pour la vision, oui, les projets, oui, la Malbaie, Baie-Saint-Paul, on est capable, amen, yes. » Mais les personnes ne donnent pas, ne s'impliquent pas et ne participent pas. J'ai vu les deux en 39 ans de ministère, des spectateurs et des cheerleaders. Ce que l'Église a besoin, c'est des joueurs, des participants. Pas seulement des gens qui disent « Yeah, bravo », mais les gens disent « Qu'est-ce que moi je peux faire? » Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour contribuer? Qu'est-ce que je peux faire? C'est des joueurs. L'apôtre Paul a dit à son jeune protégé Timothée, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. C'est pas trop mystique, son affaire. Hein? Pas trop bizarre, pas trop spirituel, même. Il dit, travaille pour avoir les fruits. Hein? Terre à terre, ça. Qui aurait pensé? Paul n'avait pas la mentalité que le réveil va tout régler. Il faut juste prier plus fort, plus souvent, plus intense. Non, il faut prier, oui, mais il faut aussi travailler. Dans le fond, Paul disait à Timothée, « Sème une bonne semence afin de récolter un bon fruit. » Puis d'avoir été témoin du ministère depuis presque toute ma vie, je suis convaincu, un des secrets du ministère est le travail ensemble, le travail de l'équipe. Car le secret d'une église efficace n'est pas trouvé rien que dans la vision, elle est trouvée aussi dans l'exécution. Car la vision tout seul ne vaut rien. C'est Thomas Edison qui a dit, la vision sans l'exécution, c'est l'hallucination. Ça, c'est tellement bien dit, ça. Vision without execution is hallucination. Puis comprenez quelque chose, il est facile d'halluciner des grandes choses. Il est facile de rêver des grandes choses, imaginer des grandes choses, prophétiser des grandes choses, parler des grandes choses, mais sommes-nous prêts à travailler pour des grandes choses, travailler ensemble vers la vision que Dieu nous a donnée? Il faut travailler. Le rôle d'une église et les chrétiens à l'intérieur d'une église n'est pas rien que la vision, c'est l'exécution. Et l'exécution demande l'effort, le sacrifice, le dérangement. Ça exige des rencontres, des réunions, la discussion, la réflexion, la transpiration, le temps, l'argent, la prière, la patience, la persistance, le déplacement. Comme que nous disons souvent, le succès d'une église est 10 % inspiration et 90 % transpiration. Moi, je suis d'accord avec ça. La partie inspiration, c'est facile. Hein? On peut rêver des grandes choses, parler des grandes choses, prophétiser des grandes choses. Ça, c'est le 10 % inspiration. Mais c'est 90 % transpiration. Il faut faire le travail en arrière de la scène et en avant de la scène. C'est Charles Finney qui a dit, « Un réveil n'est pas plus miraculeux qu'un récolte de blé. » Ça, c'est bien dit, ça. Hein? Les gens disent, « Un jour, le réveil, le miracle du réveil. » Mais il dit, « C'est pas plus miraculeux qu'un récolte de blé ou un champ de blé. » Parce que quand on passe devant un champ de blé, on sait que quelqu'un a travaillé pour avoir ça. On ne dit pas, « Wow, regarde tout le maïs, un miracle. » Non, c'est quelqu'un qui a travaillé, semé la semence, travaillé la terre pour produire. C'est la même chose dans l'Église. C'est le travail qui va produire le fruit. Sème une bonne semence et vous allez avoir le bon fruit. C'est tellement pratique. Il faut qu'on sème. Tout ce que vous faites pour semer, travailler, prier, donner, servir, c'est des semences pour que le Seigneur donne le fruit. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Il y en a qui vont dire, « Ouais, mais Pasteur Mark, tu sais, tu parles du travail, ça, ça la remplace, l'aide de Dieu, le Saint-Esprit, la grâce, le travail, c'est la loi, nous sommes sous la grâce. » Non. Regarde ce que l'apôtre, je termine dans quelques instants. Regarde ce que l'apôtre n'a pas dit ici par rapport à la grâce et le travail. C'est tellement bien dit. Il dit, « Par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. » Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Quelle belle façon d'expliquer la grâce et le travail, les moyens divins et humains. Il dit, je suis qui je suis par la grâce de Dieu, mais je travaille. Je travaille plus que n'importe qui d'autre. Mais là, il dit, mais mon travail revient à Dieu. C'est lui qui me donne la grâce de travailler comme je travaille. Alors même quand on travaille, c'est pas pour notre gloire, c'est pas gloire à nous pour le travail qu'on fait, c'est Dieu qui nous donne la grâce. Il nous donne la capacité, l'onction, l'énergie, créativité, la vision. Même quand on travaille, c'est grâce à Dieu. Tout ce que nous faisons, on fait par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu, mais la grâce ne remplace pas le travail, la grâce nous aide à travailler. Est-ce qu'on peut dire amen pour la grâce de Dieu qui nous aide à faire ce qu'on fait? Tout ce qu'on fait, c'est gloire à Dieu, c'est grâce à Dieu. Mais l'apôtre Paul a dit, je travaille pour mon ministère. Ça n'arrive pas par hasard ou par accident. Je travaille. Quelle belle façon de l'expliquer. Les membres de l'équipe valables, de qualité, c'est des personnes qui participent. Ils participent avec leur temps, leur énergie, leur talent, leur expertise, leur connaissance et avec leur argent. C'est les gens qui participent. Sans des leaders, des bénévoles, des hommes et des femmes impliqués, engageants et influents, il serait impossible d'accomplir quoi que ce soit. Alors ne sous-estimez jamais votre valeur. L'importance de ce que vous faites dans l'Église, petit ou grand, arrière la scène, en avant de la scène. Moi, je vous invite ce matin à être des personnes actives et influentes dans, pour et avec l'Église, votre Église, cette Église, devant cette nouvelle saison, devant ce nouveau chapitre. Car pour qu'une Église soit une Église influente avec un impact positif sur sa ville, il faut que l'équipe soit composée des personnes influentes avec un impact positif sur leur entourage. Alors, écoutez-moi en terminant. Cette Église, comme n'importe quelle Église, va être et va devenir ce que les membres de l'équipe sont. Ceux qui s'engagent à devenir, pas plus, pas moins. La qualité d'une église dépend toujours sur la qualité de sa congrégation et de ses membres. Vous êtes l'église, ensemble. En équipe. Seigneur, on s'engage à être des personnes de prière, des personnes de participation, des personnes de présence. Seigneur, des personnes de parole encourageante. Seigneur, on veut participer parce que l'Église va devenir ce que nous sommes et ce que nous semons. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Comment est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? J'invite les musiciens en avant. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur pour la grâce d'être appelé au ministère de participer, de donner, de s'impliquer. S'il vous plaît, ne sous-estimez jamais l'importance de qui vous êtes, l'importance aussi de la persistance, la vision, la vision. Moi, je dis merci, Seigneur, pour la persistance, la détermination, la vision de l'équipe pastorale de cette Église ici. Et de dire, ben Seigneur, merci pour qu'est-ce qui prend place à la MLB, mais on veut aussi, Seigneur, quelque chose à baisser Paul. Et c'est pas sans les défis, hein. C'est pas sans des défis, parfois même de découragement. Il y a un peuple à Baie-Saint-Paul, comme qu'il y a un peuple. Nous croyons qu'il y a un peuple dans cette région. Nous croyons qu'il y a un peuple dans cette ville. Mais ça n'arrivera pas, encore une fois, juste par hasard, par accident. Nous prions pour Baie-Saint-Paul. Nous prions pour ce nouveau projet. Nous prions pour ce peuple. Nous prions pour une stratégie. Nous prions, Seigneur, pour le moyen. Nous prions pour une place, pour un bâtiment. Nous prions pour des ressources humaines, des ressources financières, pour, Seigneur, une multiplication à la Malbaie, mais aussi une multiplication à Baie-Saint-Paul, parce qu'il y a un peuple dans ces deux villes. Mais ça n'arrivera pas juste comme ça, là. Ça va arriver par la grâce de Dieu qui nous réveille tous et chacun de nous pour dire « Je vais faire quelque chose. » La Malbaie, Baie-Saint-Paul, les enfants, les jeunes, les petits groupes, travailler avec mes mains, travailler avec mon intelligence, travailler avec mon énergie. Je vais faire quelque chose, je vais m'offrir, je vais être disponible, je vais être présent, je vais être généreux avec mon temps, mon énergie, mon argent. Et quand on travaille de cette manière-là, on va semer, semer, semer. Le Seigneur va bénir. Il va donner un fruit ici à la Malbaie et aussi à Baie-Saint-Paul, au-delà de ce qu'on peut croire, penser ou imaginer. Mais ça dépend de la qualité, la santé de l'Église, dépend de la qualité, la santé des gens à l'intérieur de l'Église. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Napoléon, quelqu'un a demandé à Napoléon, a suggéré à Napoléon que la qualité numéro un d'un soldat doit être le courage. Il a répondu, « Non, la qualité numéro un d'un soldat, c'est la persévérance. Le courage vient en deuxième. On veut persévérer. » Pour revenir à Néhémie encore une fois, non seulement qu'il dit, « Seigneur, donne-nous du succès. » Mais Néhémie, face, on connaît l'histoire de Néhémie, il était déterminé, malgré les tentatives de l'ennemi, de les décourager, distraire, dénigrer la valeur de leur travail, insulter, moquer, menacer. Tous les moyens possibles pour freiner l'avancement de son projet. Mais il a dit, « C'est ainsi que nous résolûmes de ne pas abandonner la maison de notre Dieu. » On n'abandonne pas. Peu importe l'opposition, persécution, déception, les attaques, il dit, nous avons une résolution. Rien va nous empêcher de persévérer dans le projet et la vision que le Seigneur nous a donnée. Et il dit, merci Seigneur, que Néhémie était un homme de prière, il était un homme de persévérance, mais aussi un homme de travail. Et il fait ce qui était nécessaire pour la maison de Dieu. Et combien peut dire ici, avec moi, au Charlevoix, ici, nous n'allons pas abandonner la maison de Dieu. On veut travailler pour la maison de Dieu, s'impliquer dans la maison de Dieu, soutenir la maison de Dieu. Il y a un peuple ici, une église visible, une église croissante, une église qui est connue dans la ville, une église qui va avoir une percée dans les deux villes. Jamais nous allons abandonner notre appel, notre mission et conviction, Seigneur, pour entrer dans la prochaine étape de la destinée, la saison et le chapitre de cette église. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Est-ce qu'on peut lever nos deux mains vers le Seigneur, si vous êtes d'accord avec moi, et juste dire pour un instant avant qu'on change, juste dire merci Seigneur pour qui tu es, merci pour le privilège d'être ensemble, merci Seigneur pour la grâce de non seulement témoigner, mais participer en ce que tu fais. Et juste lever vos deux mains vers le Seigneur et dire, me voici Seigneur, me voici, c'est tout. Me voici. Il n'y a personne ici dans cette salle qui ne peut pas contribuer, qui ne peut pas participer, qui ne peut pas faire quelque chose. On n'est jamais trop vieux, trop jeune, pas assez parfait, pas à la hauteur, pas assez intelligent. J'ai rien à donner, tout le monde a quelque chose à donner. Alors on dit, nous voici Seigneur, nous voici, me voici. On est disponible et désireux. Et Seigneur, tu vois chaque homme et femme et jeune dans cette salle. Je te rends grâce pour cette église. Je te rends grâce pour l'équipe pastorale. Je te rends grâce pour la Malbaie, Baie-Saint-Paul. Merci, Seigneur, pour les années de témoignage de cette église, de percée. Seigneur Jésus, merci pour l'avancement de ton royaume ici. Mais aujourd'hui, ensemble, nous disons encore plus. Nous prions, Seigneur, pour encore plus de succès, plus de victoires, plus de percées, plus dans mon nom de Jésus. Il y a un peuple dans cette ville, il y a un peuple à Baie-Saint-Paul. Seigneur, ensemble, nous prions pour le succès. Seigneur, on prie pour une percée, des âmes sauvées, libérées, transformées, multiplication, bénédiction. Seigneur, donne-nous la créativité, l'énergie, le désir, Seigneur, la volonté, l'engagement pour être des hommes et des femmes qui participent, qui contribuent dans ce que tu fais. Et Seigneur, moi je prie que tu défriches un chemin pour cette église. Seigneur, que tu continues à donner grâce, sagesse, force à l'équipe pastorale, Julien, Élise et toute leur équipe, Seigneur, et que tu pourvoies les ressources financières, physiques, humaines, spirituelles pour la destinée de cette église devant la nouvelle saison, éventuellement une nouvelle année. Et on dit merci d'avance pour ta grâce qui travaille en nous et avec nous, Seigneur, pour emmener cette Église à sa destinée de percée et de visibilité. On prie, Seigneur, pour générosité, libéralité, vision, créativité, onction. Et merci que nous avons tous le Saint-Esprit et nous sommes tous appelés et capables et équipés pour participer dans l'avancement de ton royaume ici, dans cette ville, dans cette église, au nom de Jésus. Et est-ce qu'on peut encore une fois donner une acclamation, ovation, main d'applaudissement au Seigneur et dire merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur que même moi, je peux contribuer à ce que tu fais.